Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, pardon, Adeline Wickmans. Aujourd'hui, nous allons retrouver Julien Danhier pour la troisième partie de l'entretien mené avec lui. Julien Danhier travaille dans un service d'analyse et de prospective à l'administration générale de l'enseignement. Il a participé en mai dernier au colloque École et il y avait présenté un état des lieux sur la question des ségrégations dans l'enseignement secondaire en Belgique. Et puis en novembre, on l'avait retrouvé lors de la journée d'études de la coalition des parents de milieux populaires. Et donc voilà, autant dire que ces domaines-là sont ses domaines de prédilection. On a déjà abordé avec lui la thématique des inégalités scolaires. On avait la semaine dernière parlé du lien qui existait entre la réussite du CEB et l'indice socio-économique faible de certaines familles, certaines écoles. Il y avait une corrélation qui avait été présentée entre justement ce faible indice socio-économique, la réussite parfois plus faible du CEB et surtout ce que ça donnait pour la suite des études des différents enfants. Et on se rendait compte qu'il y avait quand même toujours un impact, qu'en troisième secondaire, ceux qui avaient eu un faible résultat au CEB, la situation se dégradait. Ceux qui venaient d'école à un indice socio-économique fort avaient plus d'opportunités de se rattraper, etc. Et donc, pendant cette troisième partie, aujourd'hui, nous allons parler avec lui de ségrégation scolaire. Julien Danhier. On a abordé toute la thématique des inégalités scolaires. Ce qu'on n'a peut-être pas creusé, Julien Danhier, ce sont les causes, ce qui fait que notre système scolaire est tellement inégalitaire comparé à d'autres.
Oui. Alors, je ne vais pas brosser toutes les causes. Elles sont multiples. On en connaît beaucoup. Il y en a probablement certaines qu'on ne connaît pas. Et moi, je me suis focalisé en particulier sur deux types de causes. Alors, ça vient aussi de mon domaine de recherche, qui était la sociologie. Et donc, les deux types de causes que j'ai un peu creusées à la suite de travaux d'autres, puisque ça a été quand même des sujets relativement bien traités en Fédération et Bruxelles, depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est les causes liées, un, à la structuration de notre offre scolaire, grosso modo notre offre qui est un peu pléthore en matière de filières de formation et d'options, et des causes liées à la façon dont on s'inscrit dans les écoles, qui déborde la question du décret inscription, mais c'est toutes les manières dont on affecte les élèves aux écoles ou aux classes. Et donc ces deux causes-là, c'est un peu ce à quoi je me suis intéressé, on va dire, en matière d'inégalité scolaire. Alors, un élève, il a une carrière scolaire, et cette carrière scolaire, elle va être possible, elle va suivre une certaine organisation. Les choix vont être multiples. Et donc, ce système scolaire, il va produire des carrières très différenciées. C'est une des caractéristiques de notre système scolaire, et tant sur des questions d'orientation que sur des questions de redoublement. Donc ça, je vais juste détailler un instant. Et donc, la façon dont sont structurées les carrières scolaires, c'est soit de façon, on va dire, verticale, au niveau de la progression dans les années d'études, et la Comédie française, elle se marque par un fort redoublement. Quand on regarde à l'international, par exemple, et je l'avais déjà mentionné, le recours massif au redoublement saute assez fort aux yeux. On a des taux de redoublement. Si je prends la deuxième moitié du secondaire, on a 40% d'élèves environ qui ont eu un redoublant. Si je vais sur la fin, alors j'ai plus les chiffres là comme ça, mais je peux essayer de les retrouver juste parce que je trouve que c'est intéressant de les rappeler. Si je prends par exemple en sixième secondaire, donc les élèves en toute fin de parcours dans l'enseignement obligatoire, ils sont 52% à y être arrivés sans retard scolaire, donc sans avoir redoublé. Donc ça veut dire qu'à peine un élève sur deux a traversé sa scolarité sans redoublement. Donc c'est massif. Donc ça, c'est très structurant de notre système éducatif. Et donc ça, c'est une façon de différencier les carrières. L'autre façon de différencier les carrières, chez nous, plus horizontale, c'est de dire qu'à côté, qu'il existe plusieurs voies. Alors, dans le fondamental, on a l'ordinaire, mais on a le spécialisé à côté. Et lorsqu'on va vers le secondaire, on va avoir un premier degré commun, un premier degré différencié. Et par la suite, dans les deux et troisième degrés, donc à partir des troisième, quatrième années, etc., on va avoir des sections de qualification de transition et puis des formes ou des filières au sein de ces sections, voire des options. Et les élèves vont pouvoir choisir et être orientés à travers cette pléthore d'offres. Et cette offre ne va pas accueillir les mêmes publics ni amener nécessairement aux mêmes acquis. Voilà, ça c'est la première chose qui est très structurante chez nous, c'est-à-dire que les carrières scolaires sont différenciées à la fois par le redoublement et la multiplicité des orientations. La deuxième ensemble de règles qui va venir interagir avec ça, c'est les inscriptions. Alors ce qui est intéressant, c'est à la fois de dire comment est organisé notre enseignement et ce qu'on régule ou pas. Alors comment est organisé notre enseignement, ça a été théorisé depuis les années 90. On dit qu'on est dans un marché scolaire. Alors pourquoi est-ce qu'on dit dans un marché scolaire? On dit même qu'on est dans un quasi-marché scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les familles ont le libre choix de l'école. Et que les écoles ont aussi une liberté d'organisation et vont se faire subventionner en fonction du nombre d'élèves qu'elles vont accueillir. C'est pas un marché au sens économiste, mais c'est un marché parce qu'il y a du choix, il y a une régulation de la part des usagers dans leur choix d'école et il y a un subventionnement de l'État. Alors, ce quasi-marché scolaire, il a créé, il structure la façon dont se passe l'inscription et dont se passent les changements d'établissement. On l'a beaucoup documenté dans le secondaire en particulier, en expliquant qu'il y avait un marché, on va l'appeler un premier marché, pour acquérir des élèves en masse, parce que évidemment ça garantit la persistance de l'école. C'est aussi capital que ça. C'est pas pour se faire mousser. C'est parce que derrière il y a une école, une structure qui doit être financée, des enseignants qui doivent travailler et tout un attirail. Et s'il n'y a pas assez d'élèves, on ne sait pas maintenir l'école. Et donc il y a une première compétition, c'est pour avoir des élèves. Alors, lorsqu'on était en croissance démographique globale, ça posait des problèmes parce qu'il y avait trop d'élèves. Mais maintenant, qu'on commence une décroissance démographique, c'est documenté là pour le moment, ce premier marché peut devenir tendu, puisque maintenir l'école, c'est un enjeu. Il y a un deuxième marché, si on veut, c'est pour le type d'élèves. Tous les élèves ne viennent pas avec le même bagage et il y a des élèves qui vont être plus proches d'une certaine culture scolaire, plus proches de certaines orientations, par exemple en transition, et d'autres élèves qui auront d'autres orientations. Et sur le type d'élèves, plus ou moins valorisé du point de vue de l'école, il va avoir des spécialisations. Il y a des écoles qui vont spécialiser, par exemple, pour organiser un enseignement général avec un gros premier degré commun et attirer des élèves dans cette filière. Et d'autres écoles qui vont plus tard dans le cursus se spécialiser, par exemple, pour offrir certaines options qualifiantes. Parfois certains, mais pas d'autres. Et donc là, il va avoir des effets de positionnement. Les écoles vont devoir se positionner dans ces marchés scolaires pour attirer des élèves dans ces orientations, parce que l'enjeu est d'en avoir et d'en avoir suffisamment pour pouvoir les maintenir. Donc ça, c'est un peu l'idée du marché scolaire. C'est se dire qu'il y a comme ça une interaction entre les choix des familles et les positionnements des écoles pour attirer les élèves. Et c'est intériorisé par les deux. C'est-à-dire que les familles ont très bien intériorisé le marché scolaire et le fait qu'elles doivent choisir pour leur enfant et que ce choix n'est pas sans conséquence. Et les écoles également savent comment se positionner pour essayer d'attirer ces élèves. Alors toutes les écoles n'ont pas le même pouvoir parce qu'il y a des écoles qui auront des positions plus privilégiées sur un marché scolaire et d'autres qui devront changer de stratégie ou avoir d'autres stratégies pour compléter leurs effectifs. Ça, c'est l'idée générale. Et on croise cette idée générale à la structuration. Et donc, on se dit, en fait, notre marché, il est marqué par des écoles qui ont des offres très diversifiées en matière de parcours. Les élèves ont également des parcours scolaires diversifiés. Et il va y avoir une rencontre entre les élèves où ils sont dans leur contexte, hein, des choix en fonction de ce qu'ils peuvent faire, et les écoles qui offrent certaines choses. Voilà, ça, c'est l'idée du marché scolaire. Et ça, on l'a. Pourquoi est-ce que j'amène ça pour la question des inégalités ? Pour deux raisons. C'est un, parce que cette diversification des parcours, ben, ça a des conséquences sur le vécu des élèves. Et par ailleurs, ça rejoint une autre caractéristique de notre système, c'est-à-dire l'importante ségrégation de notre système. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, sur lequel j'ai travaillé, c'est de voir est-ce que la ségrégation a des effets sur les élèves et sur leur apprentissage. Et donc là, il y a des modèles statistiques et des théories sociologiques, on va dire, qui abordent ça. Voilà. Alors, petite chose à rajouter quand même sur la question des inscriptions, c'est qu'en fait, on régule très très peu. On a l'impression que la question des inscriptions, elle se limite à la première secondaire. La première secondaire, c'est une année parmi les 12 à 15 années de scolarité. Les parents, les familles ont déjà choisi une à plusieurs écoles dans le fondamental et vont peut-être choisir encore une à plusieurs écoles dans le secondaire après la première année, première secondaire. Mais chez nous, le côté douloureux, on va dire, si je peux le formuler comme ça, mais en tout cas polémique, du décret inscription, occupe tout le paysage médiatique. Or, il y a des tas de choses. Donc, on régule les inscriptions en première secondaire et on voit que c'est compliqué parce qu'il y a eu quand même plusieurs décrets. Mais en fait, les inscriptions scolaires se passent avant, après. Il y a des régulations aussi au niveau des changements d'école. Il y a toute une série d'autres choses qu'on régule ou qu'on régule moins. Par exemple, les inscriptions dans le fondamental sont très peu régulières. Or, quand on arrive en première secondaire, il y a quand même eu un bagage scolaire assez important. Il y a aussi des réflexions qui peuvent se mener par rapport à ce type de régulation ou non-régulation.
Alors, vous abordez, Julien Drangier, justement, ce fameux décret inscription. Vous le disiez, c'est celui-là dont on parle tout le temps dans la presse. Mais effectivement, il ne régule que la première année du secondaire. Les élèves ont tout à fait la possibilité de rechanger d'école par la suite, etc. Donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce décret inscription a un effet en termes de diminution des inégalités ?
Alors, de nouveau, la mesure des effets d'une mesure politique, elle est compliquée, voire souvent impossible. Hein. Très, très franchement, en sciences humaines, on y arrive rarement. Alors, ce qu'on a fait, parce que le décret prévoyait sa mesure, donc ça c'est bien de prévoir qu'on doive amener des faits pour dire quelque chose sur ce que fait le décret. Et donc, on est tenu de faire un rapport relatif au décret inscription tous les deux ans. Il n'y a pas qu'une mesure statistique de la ségrégation, il y a plein d'autres choses, parce que le décret ne vise pas que la question de la ségrégation. D'ailleurs, il ne vise pas initialement la question de la ségrégation. Le décret, il vise à réguler et à trancher lorsque plusieurs personnes veulent la même place. Donc, c'est ça ce que fait le décret. Hein. Donc, le décret, il s'intéresse aux écoles complètes. C'est des écoles où il y avait trop de demandes par rapport aux places. Et il dit comment est-ce qu'on fait pour décider quel élève a droit à cette place. Si on décide pas, il y a toute liberté de le faire. Mais le législateur s'est dit, je voudrais qu'il y ait des critères explicites. Et donc c'est ça qui fait le décret. Hein. Mais par ailleurs, on analyse la façon dont le processus se passe, mais on analyse aussi l'évolution de la ségrégation. Et donc là, on a depuis quelques années un indice qui suit ça, sur base de l'indice socio-économique dont je parlais tantôt, au niveau des quartiers, qui n'est pas un indice individuel, et donc notre outil de mesure est un peu grossier. Et cet outil de mesure grossier ne montre en fait pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on a des variations annuelles, mais aucune tendance lourde à l'augmentation et à la diminution. On ne constate pas d'amélioration suite au décret inscription en matière de mixité. Alors, faut un peu détailler quand même ça. Dire, un, que l'outil est grossier et que peut-être ne voit pas grand-chose, hein, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas évacuer. Deux, il faut peut-être, il faut, enfin, j'ai commencé à le rappeler, mais le décret inscription, ça n'est pas un décret qui vise à s'attaquer à la ségrégation scolaire, c'est un décret qui vise à réguler les inscriptions et qui le fait dans aujourd'hui la centaine d'écoles complètes, ou je devrais être plus précis, la centaine d'implantations complètes en première secondaire. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres écoles où ça ne joue pas et qui le fait selon certains critères, et ces critères, c'est un équilibre entre différentes choses, et c'est pas nécessairement la visée de la mixité qui est la première. Ces critères maximisent les choix des parents. On peut mesurer la réponse aux premières préférences des parents, elle est très importante. Donc voilà. Donc on a un décret qui régule les inscriptions en première secondaire. Nos outils ne permettent pas de mesurer des évolutions suite à ce décret, mais c'est un décret qui est relativement modeste par rapport à la question de la ségrégation. Par ailleurs, il fait très bien son job, c'est-à-dire qu'il permet de trancher. Il permet d'affecter des élèves aux écoles. Alors, il ne permet pas de satisfaire tout le monde, mais il permet de satisfaire une majorité de familles. Donc ça, c'est ce que fait le décret inscription. Après, on s'est aussi intéressé aux algorithmes. C'est assez complexe, les algorithmes. C'est-à-dire que vous devez savoir que sur le décret inscription, on choisit son école, on met une liste d'écoles, et puis il va avoir un algorithme. Donc l'école classe, c'est 80%. De premiers élèves, et puis il y a un algorithme qui va être mis en place pour affecter le reste des élèves, éventuellement les réaffecter dans d'autres écoles sur base de critères. Il y a plusieurs critères, et donc on a essayé d'identifier les paramètres qui avaient des effets. Et donc, on a dû mettre en place des simulations. Donc, les simulations, c'est une façon de mesurer les effets d'un algorithme, parce que c'est pas toujours facile mathématiquement de savoir ce que ça fait, ou de mesurer clairement ce que ça fait. Et donc, on crée plusieurs situations et on compare les résultats. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait. On a fait des simulations. Au moment du changement de décret, on a simulé des changements de paramètres. Par exemple, est-ce que... Donc, on a par exemple... un critère, il y a 7 critères, il y avait 8 critères, maintenant il y a de nouveau 7. Ces critères ont des pondérations qui vont faire peser plus ou moins l'un ou l'autre. Et donc on a changé les pondérations, par exemple, pour voir si ça classait les mêmes élèves dans les mêmes écoles. Et donc ça, on peut après évaluer. Et donc ce travail technique a été fait plusieurs fois et a par exemple permis de montrer que le quota ISEF a tendance à... Donc quel quota ISEF, évidemment.
Vous voyez les sourcils.
Oui, je vois les sourcils. Peut-être un petit résumé très, 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 très bref sur le décret inscription. Donc, le décret inscription, les élèves se présentent dans l'école leur premier choix. Enfin, les élèves, les familles, ils remettent leur premier choix. Et les élèves vont être inscrits sur base de priorité. Par exemple, le fait qu'il y ait un frère ou une sœur qui est déjà en école. Sur base d'un indice qui dépend de la distance de l'école par rapport à la maison, de l'école par rapport à l'école fondamentale, de l'école fondamentale par rapport à la maison, etc. Qui va dépendre de l'ordre de l'école dans ses choix. Et comme ça, 7 critères qui vont permettre d'avoir un indice qui est le sien. Il vient aussi avec le niveau social de son école précédente, de 6e primaire. Et donc, les écoles vont classer sur base de l'indice composite, comme on l'appelle, sur base des priorités, mais il y a un quota qui est fixé d'élèves qui proviennent d'écoles à ISE faible. Ce quota est à 20%, et grosso modo, l'école devra avoir au moins 20% d'élèves provenant d'implantation à ISE faible, du fondamental, je veux dire. Voilà. Donc ce quota-là, par exemple, dans l'algorithme, on a pu montrer qu'il avait un effet favorable sur la ségrégation, enfin sur la mixité plutôt, formulé comme ça. À l'opposé, l'indice composite, il a un effet légèrement défavorable sur la mixité. Mais mis ensemble, dans les simulations, l'algorithme a quand même un effet favorable. Et donc c'est ça qu'on va pouvoir départager, essayer de voir l'effet plus ou moins favorable des différents... paramètres de l'algorithme et des différentes mises en place de la procédure. Voilà. Mais ça se fait à certains moments et ça demande de faire des simulations et donc de dire allez, si on ne change rien et que je change juste ce paramètre, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Mais c'est très limité parce que les parents s'adaptent et donc on ne tient pas compte des adaptations des familles aux éventuels changements, quoi. Je ne sais pas si c'est clair.
Si,
donc
tout
à fait. On a évolué à la fois sur des choses, on a des indicateurs qui nous permettent de suivre, mais ces indicateurs sont un peu limités, un peu approximatifs parce qu'il nous manque d'annihilation individuelle. Sur ces indicateurs, on ne voit pas d'évolution, en tout cas en matière de ségrégation. Le décret fonctionne en matière de régulation. Et lorsqu'on s'intéresse à la façon dont l'algorithme se comporte, on peut mesurer des effets de certains paramètres qui sont plutôt favorables à la ségrégation, mais de taille limitée. Voilà. Après, la question de l'impact, elle est beaucoup plus compliquée parce qu'on n'a pas les deux en même temps. On ne sait pas à la fois avoir une population qu'on régule et une population qu'on ne régule pas, et que la réalité, elle s'adapte au décret, et donc les familles changent de stratégie, etc. Et donc, même dire que la ségrégation n'a pas évolué, elle aurait pu être pire, ça aurait pu changer autrement, et donc ce n'est pas ça qui va dire que le décret n'a pas d'effet.
Ça donne évidemment envie de recroiser avec tout ce qui a été abordé auparavant et de se dire, je mettrais bien le focus sur les fameux 20% qui doivent venir d'écoles à indice socio-économique faible. La question que je me pose aussi, est-ce que inversement, parce que côté néerlandophone, c'est comme ça que ça fonctionne, est-ce que les écoles secondaires à indice socio-économique faible doivent avoir eux aussi 20% d'élèves venant d'écoles primaires à indice socio-économique élevé. Et puis, ça donne peut-être envie de creuser, de voir est-ce que justement ces 20% qui sortent d'une école où peut-être le résultat du CEB n'était pas aussi, aussi élevé, est-ce qu'eux réussissent aussi bien ? Est-ce que la structure scolaire qui va les accueillir réussit à les accueillir correctement?
Alors, pour la première partie, sur le double quota, le doux nom que ça a reçu. Donc ça existe côté flamand dans certains endroits. Il n'y a pas alors, à ce que j'en sais, il n'y a pas de régulation uniforme côté flamand. Et donc il y a certains LOP qui ont mis en place, donc les LOP, c'est des zones, on va dire, dans lesquelles on régule les inscriptions.
Et Bruxelles, c'est le cas. C'est pour
voilà,
ça que...
pour Bruxelles, c'est le cas. Et donc, il y a eu ça à Bruxelles, à Gand. Enfin, Bruxelles, je connais moins. Je me souviens de Gand parce qu'il y avait eu des recherches qui montraient que ce double quota, à court terme en tout cas, parce que les recherches étaient assez brèves, neuves par rapport à la mise en place de ce double quota, montraient que ce double quota avait une légère influence positive sur la mixité. Et donc, il y avait quelques recherches qui attestaient cet effet-là. Mais c'était du très court terme, à voir comment ça se passe sur le long terme. Donc, ça existe dans certains LOP. Ça a été mis en place lors de la réforme du décret de la législature précédente. Et donc, ils avaient mis en place un double quota, notamment stimulé par les recherches qui montraient que ça avait un effet et certaines revendications venant de la société civile aussi. Alors, ce double quota est mis en place. On avait fait des simulations pour montrer que ce double quota était intéressant. Donc, dans les simulations, il apparaissait comme intéressant, mais d'effet limité. L'enjeu, il n'est pas si évident, du double quota. C'est amener... Donc, qu'est-ce qu'un double quota ? Donc, aujourd'hui, les élèves défavorisés ont un avantage... Enfin, aujourd'hui. Avec le quota ISEF, les élèves venant d'écoles défavorisées ont un avantage dans des écoles qui n'en accueillent pas beaucoup. C'est-à-dire que si je vais dans une école secondaire où il y a peu d'élèves qui proviennent de ces écoles, eh ben, ça va me donner un coup de pouce à l'entrée. Dans une école où il y a déjà 40% d'élèves qui viennent d'écoles ISEF, le quota ne change rien lorsqu'il est rempli. Hein, donc le quota, il est intéressant dans les écoles où ce n'est pas rempli. Et donc c'est pour ça qu'il a un effet un peu modeste, c'est qu'il joue en plein dans certaines écoles, si tant est que les élèves provenant de milieux défavorisés veulent s'y inscrire. Et ben, le double quota, enfin le quota élevé, qui avait été fort défendu côté flamand, il fait la même chose, mais il dit dans les écoles où il y a peu d'élèves qui viennent d'écoles favorisées, ceux qui vont avoir un avantage. mais il faut qu'ils viennent. C'est-à-dire que si les élèves des écoles favorisées ne vont pas s'inscrire dans ces écoles, bah, le quota ne sert à rien. Donc voilà, donc c'est tout la limite des quotas. Donc les quotas, c'est intéressant parce que ça peut donner un coup de pouce à l'inscription s'il y a volonté de s'inscrire. Mais pour faire venir les élèves ou les familles, c'est parfois d'autres enjeux qui doivent être pris en compte. Voilà. Mais donc ça a été mis en place, ça existe aujourd'hui dans le décret. C'est toujours difficile d'identifier l'effet de cette mesure en particulier, mais ça existe. Mais pour s'exprimer, il faut alors que les élèves viennent s'inscrire. Or, il y a des cartes mentales des écoles, en particulier dans les familles favorisées, mais pas que, parce que ça a été documenté dans diverses populations. Mais donc, toutes les écoles ne sont pas envisageables pour toutes les familles, en particulier dans un système où on doit choisir et qu'on essaie de choisir selon une partie de fantasme et de ce qu'on imagine être bon pour son enfant et qui pourrait avoir une bonne adéquation entre les besoins de son enfant et ce qu'offre l'école. C'est pas évident d'aller inclure dans cette carte mentale des écoles qui n'en font pas partie. Et donc là, la simple existence du quota n'est pas suffisant pour modifier la situation. La deuxième partie de la question que j'ai oubliée
portait sur justement la réussite de ces élèves via le quota arrivent
On ne sait pas quels sont les élèves qui arrivent via le quota. Et d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'en fait, c'est un effet algorithmique. La plupart des écoles n'ont pas exactement 20% d'élèves. Ça dépasse. Parfois, on rentre via la priorité fratrie. Mais on pourrait aussi bénéficier du quota. Donc la façon dont on entre est un peu complexe. Donc on pourrait pas mettre un dispositif qui dit il y a les élèves que le quota a amené dans l'école et on va voir comme s'ils avaient eu une bourse à s'inscrire dans une école auquel ils n'ont pas accès. C'est pas comme ça que est structuré notre système. Mais donc ça, c'est pas un dispositif qu'on peut mettre en place. Ce qu'on pourrait regarder, mais qu'on n'a pas encore fait, c'est voir. C'est un peu ce qu'on essaye de faire maintenant avec les parcours scolaires, c'est voir si les élèves provenant de milieux défavorisés ou provenant de différents milieux réussissent de la même manière par la suite. C'est pas si évident à faire, mais il y a des modèles statistiques qui permettent de voir est-ce que à caractéristiques équivalentes, on va dire, est-ce que la réussite ou la façon dont ça se passe dans l'école, compte tenu de ces caractéristiques à l'école, change. Voilà. Donc voilà, ça c'est des modèles. Il y a des modèles multiniveaux qui permettent de faire ça. On ne l'a pas encore appliqué à nos nouvelles données de parcours. Il y a de la littérature scientifique sur certains effets. Alors il y a deux types d'effets qui sont un peu concurrents. Parce qu'on n'arrive pas tout. Le consensus scientifique, c'est pas si évident non plus. Et donc il y a une littérature sur l'effet de composition. Alors l'effet de composition, c'est cet effet. Donc c'est le nom qu'on a donné à cet effet-là. C'est dire. Alors, je prends deux élèves identiques, ce qui n'existe pas, mais deux élèves qui seraient théoriquement identiques. Si j'en mets un dans une école favorisée ou dans une école académiquement plus favorable, parce que c'est surtout un effet de composition académique qu'on observe. Donc si je mets dans une école où les autres élèves ont une réussite scolaire assez importante, et que j'en mets un autre dans une école plus faible de ce côté-là, on remarque que l'élève qui est dans l'école plus forte va progresser plus. On a une mesure statistique de ça. Et donc ça, c'est toute la littérature autour de l'effet de composition. C'est-à-dire, il n'y a pas que les caractéristiques individuelles de l'élève qui comptent, mais que l'environnement dans lequel il va se trouver à l'école, en particulier l'environnement lié au niveau des autres élèves, va avoir un effet. Alors il y a un grand débat, comme toujours, dans le champ scientifique, il y a un grand débat pour... autour de cet effet de composition et de sa mesure statistique. Donc déjà sur la question théorique, il y a des débats parce que bon, c'est pas juste magique, hein, c'est pas juste parce que je suis avec d'autres élèves qui sont forts que je vais devenir fort. Hein. Il y a tout un débat pour savoir c'est quoi qui fait cet effet-là. Est-ce que c'est les pratiques des enseignants? Est-ce que évidemment c'est un peu de tout. Hein, mais il y a des choses qui sont liées à l'organisation de l'école, aux pratiques, à des effets de pair. Il y a toute une série de choses qui sont testées de ce côté-là et qui sont difficiles à identifier et à isoler. Et puis il y a des débats techniques, statistiques, qui sont liés à l'utilisation des modèles, et qui tourne autour du fait que certains modèles auraient tendance à amplifier l'effet de composition et d'autres pas, et que c'est lié peut-être à la façon dont on modélise certains types d'erreurs statistiques, à la fiabilité de certaines méthodes. Et donc là, il y a un débat qui souvent se passe en dehors du champ sociologique ou de sciences de l'éducation, et qui va se positionner dans un champ plus technique, et ces deux champs ne se parlent pas toujours très bien. Donc voilà, donc ça c'est un truc qui existe, enfin c'est un concept qui existe depuis un bon bout de temps, mais qui est toujours débattu. Voilà, ça c'est l'effet de composition. Et puis il y a un autre type d'effet, l'effet petit poisson dans un gros étang.
Okay.
C'est pour le traduire, hein, ça doit être plus ou moins ça, gros poisson dans un petit étang. C'est de dire que si je prends le même élève et que je prends par exemple un élève qui est faible, dont les acquis sont plutôt faibles, si je le mets dans une classe forte, si j'applique l'effet de composition, il devrait mieux réussir dans une classe forte que dans une classe faible. Or, il y a aussi des observations qui viennent contredire ça. Et l'argument, c'est de dire que si je le mets dans une classe faible ou moins forte, le décalage par rapport au niveau de la classe va lui permettre d'apprendre. Alors que s'il est fort décalé par rapport à une classe forte, il ne va peut-être pas apprendre, il va avoir une image de soi qui va être dégradée, etc. Et donc, cet effet-là, il n'est pas tout à fait compatible avec l'effet de composition. Et donc là, on a un débat entre différents courants scientifiques pour essayer de démêler des constats qui sont attestés d'un point de vue statistique, avec des modèles évolués sur des données assez consolidées, on va dire, sur des données solides, mais qui ne montrent pas la même chose. Et donc là, j'ai pas connaissance d'avoir que le débat soit résolu, en tout cas, mais il y a deux choses, et ça répond peut-être à la question, mais on ne sait pas encore très bien. Mais là, il y a en tout cas quelque chose d'ouvert.
Je reviendrai bien sur ce que vous abordiez au tout début, Julien Dorier. Quand on parle d'inégalité scolaire, il y a la problématique de la ségrégation dans les écoles, mais vous disiez il y a aussi la problématique du redoublement,
oui,
qui est fort pratiquée proportionnellement en Belgique, quasiment un élève sur deux qui aurait doublé, en tout cas en communauté française, qui à la fin de sa scolarité aurait au moins doublé une année. Et vous disiez, dans d'autres pays, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que le redoublement est vu comme une solution chez nous ? C'est évidemment lié à la culture scolaire, mais quels sont supposés être les avantages ou les inconvénients de ce redoublement ?
Alors, ça c'est aussi un débat très ouvert. Alors, il y a un certain consensus scientifique sur l'inutilité d'un redoublement massif. Donc, je disais tantôt, la Belgique pratique énormément le redoublement, pratique énormément le redoublement comparativement aux autres pays. Je l'avais dit, j'avais utilisé les chiffres sur le retard scolaire en fin de scolarité, mais sur PISA, on calcule un redoublement. Bon, il est approximatif parce qu'on est sur un échantillon, mais sur PISA, alors je ne sais plus quel PISA parce que c'est pas marqué sur mes chiffres, mais le redoublement était de 33% calculé en Fédération des Bruxelles. Le suivant de la sélection de pays que j'avais pris à l'époque, donc les Pays-Bas, on était à moins de 25%. Donc on avait déjà 8%. Et puis la moyenne était en dessous des 15%. Et donc, entre 15% et 33%, c'est quand même assez massif comme différence. Ça veut aussi dire qu'il y a toute une série de pays qui pratiquent un redoublement qui n'est pas marginal non plus. Hein, 15% d'élèves qui ont redoublé à 15 ans, c'est pas marginal. Hein, mais donc, voilà. Donc, c'était juste pour remettre en contexte par rapport aux autres pays. Alors, il y a un consensus pour dire que ça ne marche pas de manière massive. Mais pour autant, il n'y a pas beaucoup de pays qui l'interdisent parce que ça a certaines qualités, si on peut le dire comme ça. Alors, ce qu'on sait, en tout cas aujourd'hui, c'est que d'un point de vue pédagogique, c'est pas fou. L'utilité pédagogique, elle n'est pas énorme. Alors, pourtant, le terrain ou les enseignants, en fait, remarquent que l'effet du redoublement d'un point de vue pédagogique, il peut être parfois positif. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a un, c'est qu'on remarque qu'il y a un effet. Alors là, il y avait eu une analyse qui utilisait des méthodes de matching. Donc, l'idée, c'était de dire, j'essaye d'identifier des élèves identiques. Certains ont subi le redoublement, d'autres ne l'ont pas subi. Alors c'est une approche théorique, hein, mais qui peut être modélisée d'un point de vue statistique. On a beaucoup de mal en sciences humaines à avoir des élèves identiques qui subissent les deux, évidemment. Donc il faut trouver des dispositifs pour le faire. Et ce qu'ils avaient pu montrer, c'est que... alors je pourrais vous fournir les sources après, hein, mais ce qu'ils avaient pu montrer, c'est que il y avait une amélioration l'année d'après, mais sur le long terme, pas. Donc il y a peut-être quelque chose de ça, c'est-à-dire le redoublement, il a un semblant d'effet pédagogique à court terme. Sur le long terme, c'est pas sûr, voire ça pourrait s'inverser. Ça c'est une chose, et la deuxième chose c'est que, et donc il y a eu une discussion très intéressante en Belgique entre les chercheurs il y a quelques années, il y a eu 2-3 articles qui sont répondus notamment autour des travaux de Hugues Drellens, mais aussi de, si mes souvenirs sont bons, Ariane B et Benoît Galland, et donc la question intéressante c'est: est-ce que le redoublement est toujours inefficace d'un point de vue pédagogique? Et là, si on peut être d'accord sur le côté massif, l'inefficacité d'un redoublement massif, il peut avoir des cas de réussite. Et donc ça entretient aussi un rapport au redoublement, même d'un point de vue pédagogique, avec des élèves chez qui ce redoublement aurait un effet positif. Donc voilà, il y a deux choses. Il y a un, peut-être un effet immédiat qui se délite par la suite, et deux, peut-être des cas qui fonctionnent. À côté de ça, il y a d'autres choses, d'autres fonctionnalités du redoublement qui peuvent aussi expliquer l'attachement qu'on a, parce que quand c'est mesuré, on remarque qu'on a un attachement au redoublement chez les profs, mais pas que. Chez les parents aussi, une école qui fait pas du tout redoubler, ça peut paraître suspect. La réussite pour tout le monde, elle n'est pas nécessairement acquise, et c'est pas un principe que tous les parents partagent, ni que tous les profs partagent. Ce qui avait été intéressant, et donc je reviens à Hugues Drellens qui avait pas mal travaillé là-dessus, et il avait pu montrer qu'il y avait d'autres fonctions du redoublement. Donc il y a la fonction manifeste, qui est l'usage pédagogique. Hein, l'élève est en retard, le redoublement va lui permettre d'asseoir ses acquis et une série d'autres choses, mais c'est une formulation pédagogique. Et donc, à côté de la fonction qu'on pourrait dire manifeste du redoublement, il y a d'autres fonctions, parce qu'une pratique, elle n'a pas qu'une fonction, elle s'inscrit dans une pratique quotidienne, dans des contextes. Et donc, le redoublement, à côté de ça, il aurait d'autres fonctions. Une fonction de gestion de l'hétérogénéité. Et donc, je reviens à la question des parcours scolaires. Il y a des enjeux à enseigner en classe mixte. C'est pas un boulot facile d'enseigner dans des classes diverses, etc. Et donc le système prévoit des façons de regrouper les élèves plus ou moins similaires. Alors on peut discuter sur à quel point ils sont similaires ou pas. Et le redoublement fait partie de ces pratiques. Faire redoubler, ça permet aussi de recaler l'élève avec un groupe d'élèves avec lequel il sera peut-être plus homogène. Et donc le redoublement, comme l'orientation, il participe à cette gestion de l'hétérogénéité qui peut avoir des effets sur le travail en classe. Alors, ce n'est pas son effet premier, hein, c'est d'abord la question pédagogique et de l'acquis des savoirs, mais il rentre là-dedans aussi. Le deuxième, c'est sur la réputation de l'école. Donc, on est dans un quasi-marché scolaire, j'avais un peu esquissé ça tantôt. L'école, elle a des enjeux de position sur le marché scolaire pour attirer les élèves, et donc l'école va plus ou moins pratiquer du redoublement. Ça se décide pas individuellement, le redoublement c'est des constructions collectives, notamment au conseil de classe, et selon la politique de l'école, le redoublement va plus ou moins être valorisé et utilisé. Et enfin, ce que disait Drellan, c'est qu'il y a aussi des enjeux de pratique professionnelle. Je le reformule peut-être mal, mais c'est une autonomie de l'enseignant de pouvoir faire ce choix par rapport à ce qu'il sait de l'élève et la façon dont il travaille en classe. Et donc, il y a aussi des enjeux professionnels. Et c'est un outil dont on ne se sépare pas nécessairement parce que ça donne un certain pouvoir dans la classe. Et donc, il y a des enjeux de pratique à la fois par rapport aux élèves, mais aussi par rapport à la façon dont on construit son métier, je crois, si je peux le formuler sans trop trahir. Et donc, ce qu'on remarque quand on s'intéresse au redoublement, c'est qu'il y a à la fois un attachement, Quand on creuse un peu cet attachement, ben, il est peut-être dû aussi à, au-delà de, d'une impression d'efficacité pédagogique qui peut-être est réelle dans, dans toute une série de cas, mais il y a aussi des fonctions autres qui peuvent expliquer son, son maintien. Donc voilà, mais quand, quand une pratique est bien installée, qu'en plus il y a une certaine croyance dans cette pratique, c'est pas si évident de la changer, même si il y a une série d'analyses, alors plus globales, souvent, qui viennent dire mais que le redoublement... à l'international, on remarque qu'il y a des pays qui s'en sortent très bien sans redoublement, qu'en plus on le pratique de façon très massive et qu'il y a peut-être à s'interroger sur ce, ce recours massif au redoublement. Mais on n'a pas pour autant la solution facile, c'est-à-dire que si on retire un outil aux enseignants, il faut pouvoir en proposer d'autres. Et donc c'est toujours très difficile de réfléchir le redoublement, parce que si on le retire, qu'est-ce qu'on met à la place? Alors peut-être que les élèves vont changer, parce que sans le redoublement, le rapport à l'école change, le rapport au savoir, la façon dont, dont se passe la dynamique dans une classe va changer. Mais on est un peu à la... c'est pas facile à conceptualiser. Et donc c'est pas facile de... Et donc le redoublement, en plus, c'est une variable qu'on voudrait bien... Enfin, je vais utiliser le terme variable d'ajustement, mais d'un point de vue budgétaire, ça, ça coûte très très cher. On voudrait quand même le diminuer. C'est pas terrible sur la construction de la carrière scolaire des élèves. On peut se mettre d'accord sur le fait qu'un redoublement, c'est quand même pas quelque chose de bon dans la construction du rapport à l'école. Enfin, c'est assez violent, un redoublement. Donc... du point de vue de l'élève, on peut se dire que si on peut évacuer ça, ça serait bien. Du point de vue budgétaire, c'est un gros problème. Donc, une volonté de le supprimer, il y en a, mais comment, par quoi, c'est là que c'est pas si évident. Et donc, c'est là qu'il faut faire autrement. Et la limite, et c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs tentatives, mais au niveau réglementaire, de suppression du redoublement. Et on remarque que ça se passe pas si facilement. On le supprime à un endroit, il se déplace à un autre. Donc voilà, donc c'est un travail de longue haleine, ça nécessite de changer le rapport à l'école des élèves qui doivent se motiver autrement, parce que c'est parfois ce qu'on entend aussi par rapport au redoublement. Les profs doivent trouver de nouvelles solutions, ils doivent gérer aussi des classes qui sont éventuellement plus hétérogènes, donc ça veut dire beaucoup de choses qui doivent changer. Et donc quand on part d'un truc massif comme ça, ça va prendre du temps.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Julien Dornier de m'avoir accordé cette interview. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve jeudi ou vendredi prochain pour une autre histoire de savoir. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir. What?